Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Restez debout, restez debout. Dites avec moi. Personne ne pourra plus me bloquer. Personne ne pourra plus me freiner. Le Saint-Esprit enlève le couvercle. Il forge les choses. Et plus jamais, je resterai bloqué. Au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je modèle bien mes paroles. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. De maintenant, nous fonçons jusqu'à 21e jour. Je dis bien, nous fonçons jusqu'à 21e jour de jeûne et de prière. De là, de là, on démarre. 21e jour, je ne dis pas de prière, mais de jeûne et de prière. Mais écoutez-moi bien, je dis bien, seulement à ceux qui veulent. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Seulement à ceux qui veulent. Si tu fais partie de ceux qui veulent, eh bien, embarque-toi. Parce que Dieu ne dit jamais des choses par hasard. Je vous l'ai dit, c'était clair et net. J'étais en train de prier. Il y a des choses qu'il m'a dit ici, quand je priais. On était avec le frère Francisco, on était en train de prier. Le Seigneur m'a dit des choses. 21e jour, des jeûnes et des prières. Deuxième chose, il a dit ceci. Croyez et croyez et déclarez que ce que je fais est vrai jusqu'au moment où vous le verrez s'accomplir. C'est des choses-là. Et les amis, la porte est ouverte pour tout le monde. Mais nous sommes partis pour au moins 3 semaines, 21 jours. Aujourd'hui, on a commencé notre jeûne. Et on continuera de jeûner jusqu'au 21e jour. Et là, nous clôturerons. Si tu sens dans ton cœur de t'embarquer, vas-y. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous le demande, mais tout ce que je te demande, vas-y. Tu n'es pas obligé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur le demande, mais vas-y. Je vous expliquerai. Mais pour le moment, vas-y. Si toi, ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé. Mais si tu vois que tu peux t'embarquer, eh bien, vas-y. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur le demande, mais le Seigneur l'a dit clairement. C'est le temps de venir dans ma présence. 21 jours de jeûne et de prière. Et le reste, nous allons lui laisser faire ce que lui veut accomplir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le reste, on le laisse faire ce qu'il veut accomplir. C'est à lui. C'est à lui. Alors c'est à lui, parce que je sais que le diable te dira, ah non, moi je ne suis pas dans ces affaires-là. Ok, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Mais seulement ceux qui sentent dans leur esprit que ça, c'est une opportunité que Dieu te donne de vivre cela. On ne sait pas pourquoi. Alors embarque-toi. Et à la fin, le reste, ben, ça appartient à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Hallelujah. Très important. Oh, je bénis le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous donne. Et le reste, l'avenir nous en parlera. Que le nom de Jésus soit béni. On peut s'asseoir. Merci. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons monter à la montagne. C'est ça qu'on dit. Monter à la montagne. Vous savez, un jour, la Bible dit que Dieu parla à Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit, Moïse, parle à mon peuple qu'il monte à la montagne. Vous savez, monter à la montagne, ça symbolise beaucoup de choses. Dieu dit à Moïse, parle à mon peuple et qu'il monte à la montagne. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des problèmes compliqués un peu qui se passaient. En fait, le peuple disait constamment à Moïse, Moïse, va parler à Dieu. Va, toi, tu es habitué à parler à Dieu, parle-lui. Et dès que vous aurez fini votre causerie, dis-lui que nous sommes dans des besoins. Allô? ça c'est formidable. C'est ça. En fait, le peuple de Dieu, voyez, quand Moïse allait à la montagne pour aller dialoguer avec Dieu, et il regardait. Ah non, il est parti. Ah, il vient de sortir. Ah non, il vient de sortir de sa tente. Ah bon, il vient de sortir de sa tente. Ah ben, regardez, il est en train de partir. Et qui est à côté de lui? C'est Josué. Josué. Et Josué était là avec le sac de Moïse. Ah bon, il est parti. Ah oui, il est parti. Alors Moïse allait à la montagne et quand il terminait, il revenait. Il disait ce que Dieu lui a dit. Mais un jour, Dieu a dit, Moïse, ça suffit maintenant, il faut que tu viennes avec eux. Dites-leur que je veux qu'ils montent eux aussi à la montagne. Qu'ils viennent m'entendre. Qu'ils viennent m'écouter. Parce qu'au fait, Dieu voulait un contact. Dites un contact. Dieu voulait quelque chose, une connexion. Dites connexion. Dieu voulait une connexion. Une connexion. Vous savez, quand Dieu parle, il y a des moments parfois, il y a des connexions de Dieu, il y a des connexions divines que nous ne savons pas. Il y a des connexions divines. Vous savez, quand Dieu veut te connecter, il te connecte n'importe où. Et si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas que Dieu t'a connecté. Ce soir, cet après-midi, on est en train de rire avec le frère Francisco. Et finalement, ma secrétaire m'appelle, dit, pasteur, il y a un monsieur qui te cherche. Je dis, ah bon, il est où? Il est à Lyon. Bon, je dis, écoutez, s'il veut, il peut me voir. Aujourd'hui soir, je suis là, à l'église. Alors, vers 17h, je vois le monsieur. Je ne le connais pas. Il me dit, monsieur, je suis venu te voir. Je suis un grand homme d'affaires. Moi, je suis un affairé. Ben, écoutez, j'ai mes affaires, ainsi de suite là. Mais ça fait quelque temps, je suis troublé. Je dis, ah bon, tu es troublé, pourquoi? Dis-moi, monsieur, est-ce qu'il te manque l'argent? Il dit, non, monsieur, j'ai tel business. J'ai tout ce qu'il faut, monsieur, mais je suis troublé. Ma vie n'a plus de sens. Mais monsieur, un jour, toi, monsieur, c'est un Québécois, je parle d'un Québécois, il m'a décalé, il dit, monsieur, un jour, je t'ai entendu prêcher lors d'un décès quelque part. Je dis, moi? Il dit, oui, c'est toi. Lors d'un décès, quelque part, ça fait un an, et tu es en train de prêcher. Monsieur, j'étais avec mon épouse. On est sorti de là. On a dit, non, c'est quoi ça, cette affaire? Comment quelqu'un peut entrer dans la vie de quelqu'un sans le connaître? J'ai dit, monsieur, ce n'est pas moi, mais c'est celui qui t'a créé qui est entré en toi. Elle a dit, monsieur, j'ai fait semblant comme si rien n'était. Il y a de cela quelques mois, je voyais que ma vie était bouleversée. Ma vie n'avait plus de sens. Et j'ai commencé à chercher où te rencontrer, monsieur. Où? Mais dans ce salon funéraire, il y avait tellement de monde. Je ne savais plus où. J'ai commencé à me renseigner. Avec quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, oh, je crois que ça doit être ce monsieur-là à telle adresse. Et j'ai pu trouver ton adresse, je suis venu. Monsieur, dis-moi, pourquoi ma vie ne va pas bien? J'ai dit, mais hein, tu es venu à la bonne place. Et on a parlé pendant au moins 10 minutes. Il a levé ses mains en l'air. Il a dit, Jésus, viens dans mon cœur. Et fini, c'est ça qu'il avait besoin. Vous savez, quand il a fini, il m'a serré dans ses bras. Il a dit, monsieur, tout ce que j'avais besoin, c'est ça. Tu me verras le dimanche, je viendrai. Il est sorti, il est entré dans sa voiture, il est parti. Je regardais frère Francisco, je disais, c'est bizarre. C'est étonnant. Mais quand Dieu veut connecter quelqu'un, regarde, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, ne joue pas. Quand tu témoignes Jésus, ne joue pas. Faites comme si c'est la dernière personne que tu parles. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de planter. Ce monsieur-là, ça fait un an, il m'a même pas expliqué où. Il m'a dit seulement, c'est toi, monsieur. Vous voyez? J'ai expliqué le salut, j'ai expliqué la réalité de l'au-delà. Moi, je ne savais pas, il était là avec sa femme. Mais Dieu l'a rentré au fin fond. Il est parti. Mais un an après, Dieu ne s'est pas retiré. Parce que Dieu, quand il s'est retrouvé dans des situations dramatiques, quand il ne savait plus, malgré son argent, mais quand il ne savait plus le sens de sa vie, la première chose que Dieu lui a parlé, il lui a montré. Regarde ce monsieur-là qui parle. Dieu lui a ramené exactement ce que je disais au salon funéraire. Dieu lui a dit, cherche-le. Les amis, dès qu'il a accepté Jésus, il s'est levé, il pleurait, il est géant, costaud, il pleurait, il tremblait, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai tremblé dans tout mon corps. J'ai dit, la puissance de Dieu t'a touché. Plus jamais tu seras pareil. Elle dit, monsieur, je crois que c'est ça que j'avais besoin. Il est parti, elle dit, attends-moi dimanche. Il est sorti, il a pris sa voiture, il est parti. Dieu, c'est un Dieu de connexion. Dieu, c'est un Dieu qui est prêt à te toucher. Il faut que tu sois disponible. Il faut que tu ouvres ton cœur. Les amis, ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de niaiser. Ce n'est plus le temps de rester pour rien. Manger, boire. Et finalement, depuis que tu fais cette routine, il n'y a rien qui a changé. Attends, regardez un peu. Depuis que tu vis la routine, tu te lèves, tu te réveilles, tu vas au travail, tu vas au cours, tu manges, tu bois, tu reviens. À la fin du mois, on te donne un chèque. Certainement, c'est la routine. Il n'y a rien qui se passe. Pose-toi la question, est-ce que c'est ça la vie? Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore de plus. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est très important, frère. C'est dans des moments pareils où on se décide. C'est dans des moments pareils. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob. Jacob, la Bible dit, de retour, il revenait pour retourner dans l'endroit, son endroit, son pays d'origine. Et il se souvenait qu'il avait un problème avec son frère, Ésaü. Et la Bible dit qu'au moment où il revenait avec toute sa richesse, il retournait à la maison avec toute sa richesse, avec tout son argent, avec ses femmes, avec ses enfants, ses moutons, ses vaches, ses brebis. Il arrive quelque part, il dit, « Wow, j'ai fallu oublier que j'ai un problème avec mon frère. Et certainement, quand il me verra, il ne me manquera pas. Il me tuera certainement. » Il se souviendra de ce que je lui ai fait et il me tuera. Alors, quelque part, à un certain moment, il s'est arrêté. Il a dit, bon, ok, je prends toute ma richesse. Go devant, amenez mes troupeaux, amenez les moutons, amenez les brebis, amenez les enfants, amenez tout. Allez devant, si vous rencontrez mon frère Ésaü, dis-lui, prends-nous tous. Si cela pourrait apaiser sa colère. Il est resté avec ses femmes. À un certain moment, il a dit, non, même vous aussi. Je vais vous aider à traverser là, la rivière. Allez-y, je vais rester seul. Vous savez, il y a des moments dans la vie, il faut apprendre. Je ne te dis pas d'aller laisser ta femme, non. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je disais qu'il y a des moments où, il y a des moments dans la vie où on doit apprendre à se séparer. Des choses pour un temps, mais pour aller plus loin. Pour chercher la face de Dieu. Et Jacob, c'est ça qu'il a fait. Il s'est séparé, non seulement de sa richesse, de ses moutons, de ses vaches, de ses quoi. Il s'est séparé et de ses enfants qu'il aimait, et de ses femmes, ainsi de suite. Et il s'est retrouvé seul de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté, il s'est retrouvé seul dans la solitude. Mais il n'était pas seul, il savait qu'il était avec Dieu. Il y a des moments, ça vaut la peine de s'éloigner un peu de toutes ces brouhahas. Il y a des moments, parfois, ça vaut la peine de fermer un peu ta télé, de fermer un peu, de prendre un peu, d'arrêter un peu tous ces rendez-vous-là, d'habitude, d'arrêter un peu de parler. Tu sais, des heures et des heures, tu parles au téléphone. Tu termines le travail, tu arrives à la maison, tu parles tellement des heures au téléphone que tu ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Fatigué tellement, tu te jettes au lit. C'est fini, Seigneur, merci. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu connaîtras le plan que Dieu a vraiment pour toi? Parce que ce que tu fais n'est pas forcément le plan de Dieu. Et parfois, tu te retrouves, parfois, même ce que tu fais maintenant n'est pas forcément parfois le plan de Dieu pour toi. Mais maintenant, en vivant dans cette brouhaha-là, en n'étant pas discipliné, en ne prenant pas des moments mis à part où tu dis, Seigneur, je veux que les choses changent parce qu'au fin fond de moi, je vois qu'il y a quelque chose. C'est en ce moment-là où tu diras, Dieu te dira, parce que tu as décidé de t'éloigner, parce que tu as décidé de t'approcher de moi. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quelqu'un peut dire un bon amen? Quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Frères, il y a des grandes choses qui vont se passer pendant ces 21 jours. il y a des grandes choses qui vont se passer. Je ne sais pas quoi, je ne vous dis pas quoi, mais tout ce que je sais, c'est Dieu qui a demandé de le faire. Il va le faire. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Non. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux être un spectateur. Regardez de loin. Allez-y à la montagne. Moi, je reste dans mon coin. Ça fait presque 3 jours qu'on sommes là. Nous sommes en train de parler sur tout est possible. Tout est possible à quoi? Ça fait presque 3 jours depuis le lundi, mardi, aujourd'hui, on est mercredi. Nous sommes en train de traiter un sujet. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui pleure. Tout est possible à celui qui se lamente. Tout est possible à celui qui jalouse. Tout est possible à celui qui se pose tellement de questions sur ce qui va lui arriver. Non, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout. Oh, c'est fort ça. Tout est possible. Et le lundi, j'étais en train de prêcher en passant pour ceux qui n'étaient pas là. Le lundi, j'étais en train de parler sur l'apôtre Paul qui a dit à Timothée. Il a dit, Timothée, souviens-toi des prophéties qui ont été dites à ton sujet. Il dit, combat le bon combat par rapport à la prophétie qui a été déclarée à propos de ta vie. C'est ça que je prêchais lundi. L'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée, ne regarde pas tout ce que tu vois. Mais souviens-toi qu'il y a de cela quelque temps, Dieu a parlé, Dieu a prophétisé à propos de ta vie. Alors, par rapport à ce que Dieu a dit, Timothée, combat les bons combats de la foi. L'apôtre Paul dit, par rapport à ce que Dieu a dit à ton sujet, Timothée, ne sois pas influencé par ce que tu vois. Ne sois pas influencé par les événements, même si les événements vont à l'encontre de ce que Dieu a dit dans la prophétie. Toi, protège ta foi, parce que ce que Dieu dit, il accomplit. Mais ce que Dieu accomplit ne passera pas outre sans passer par des épreuves. Qui est là? Ah, parfois... Ce que Dieu a prophétisé ne se réalisera pas sans que cela passe par le feu. Et c'est ce temps de feu-là que les gens n'aiment pas. Alors Dieu, Timothée, avertit. Paul avertit Timothée en lui disant, souviens-toi de ce qui a été dit à ton sujet. Il y a tellement de choses que j'avais dit là-dedans. Je crois que tout ce qu'il faut, c'est de prendre le CD. Le mardi, hier, j'étais en train de dire quoi? Hier, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé de quoi? Mardi. Oui? Ah! Nous continuons toujours, si tout est possible. Voyez-vous, c'est pas bon ça. Vous écoutez, je parle, et puis vous ne saisissez même pas, vous ne prenez pas des notes. Hier, j'étais en train de parler que tout est possible à celui qui croit. À propos de quoi? Du rêve au zap. Il y a un temps pour rêver, il y a un temps pour passer où? Il y a un temps pour rêver, il y a un temps pour passer où? Je disais, il y a un temps pour rêver, il y a un temps pour passer aux actes, parce que le rêve sans les actes ne se réalisera pas. Il y a un temps pour rêver, mais il y a un temps pour passer aux actes. Et hier, je vous ai donné toutes sortes d'exemples, des païens, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont fait des exploits. Toutes les inventions que nous voyons aussi ont été inventées par des païens qui ne connaissaient même pas Dieu. Hier, je vous ai expliqué, la Bible nous a montré, dans Genèse chapitre 11, je ne sais pas si je ne me trompe pas, un groupe de personnes qui ont dit, maintenant, décidons-nous, bâtissons, construisons un tour qui va monter jusque dans les nuages. La Bible dit que Dieu parla avec son fils, parla avec le Saint-Esprit. Il regarde et dit, attends, la façon dont je les vois, premièrement, ils sont unis, ils parlent une seule langue. Deuxièmement, ils ont découvert les potentiels que j'ai mis en eux. Ce qui veut dire, comme ils ont découvert les capacités que j'ai mis en eux et qu'ils sont audacieux, qu'ils sont déterminés, je vous le dis que rien ne pourront pas les empêcher. Dieu lui-même a dit rien ne pourrait les empêcher. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont découvert les capacités que j'ai mis en eux. Ils ont découvert. Mais maintenant, ils veulent utiliser ces capacités-là pour leur propre gré. Parce que la Bible dit, construisons un tour et faisons-nous un nom. Ah, c'est ça qu'il a dit. Dieu a dit, non. Ils ont dit, construisons ces tours qui montent jusque dans les nuages et faisons-nous un nom. Dieu n'était pas contre les tours. Mais ce qu'il était contre, c'est parce qu'ils n'étaient pas connectés avec lui. La Bible dit que Dieu a vu. Il a vu qu'ils étaient tellement audacieux. Ils avaient tellement l'audace. Ils ont compris tellement ce que Dieu a mis en eux. Ils ont compris tellement leur capacité. Dieu dit, si nous ne descendons pas, rien ne pourra les empêcher, ni le diable. Rien ne pourra les empêcher. Hier, j'étais en train d'expliquer ici que si des personnes qui n'étaient pas connectées avec Dieu, mais ils ont pu accomplir. Dieu dit, ces gens-là ne sont pas connectés avec moi, mais ils ont tellement compris ce qui est en eux qu'ils sont en mesure de faire n'importe quoi et rien ne pourra les empêcher d'atteindre cet objectif. Dieu a dit rien, c'est Dieu qui l'a dit. Hier, j'étais en train de dire, mais comment se fait-il que nous qui avons l'esprit de Dieu, nous qui sommes connectés avec Dieu, nous qui avons une relation avec Dieu, tu te rends compte? Étant connecté avec Dieu, regardez un peu quel type de choses qu'on est capable de réaliser. Parce que si les gens qui ne sont même pas connectés avec Dieu, des gens qui ne sont même pas connectés avec Dieu, des gens qui n'ont même pas une relation avec Dieu, et nous regardons des inventions qui actuellement qui hurlent dans le monde entier, tout ce que nous voyons, mais c'est inventé par des personnes parfois qui n'ont pas une relation avec Dieu. Mais à plus forte raison, nous qui avons une relation avec Dieu, regardez un peu le type de choses que nous sommes à mesure de réaliser. Dites avec moi, je suis fatigué. Quand nous comprenons ce que Dieu a mis en nous, nous pouvons dire tout est possible à moi. Vous savez, c'est facile de dire tout est possible à nous. Mais non, tout est possible d'abord à toi. Regardez-moi, est-ce que vous savez que la foi de quelqu'un ne t'influencera pas? Même le doute de quelqu'un n'a pas d'impact sur toi. Regardez, quand je demande exemple, ma soeur vient me voir, dit, j'aimerais bien, pasteur, prie pour moi. Regardez-moi, le fait de m'accorder, le fait de me demander pour que nous prions pour quelque chose, ces doutes ont de l'influence sur la prière. Parce qu'elle m'a demandé de s'accorder. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous accordez pas avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme toi. Parce que sinon, vous allez passer du temps inutilement. Je ne sais pas si vous êtes là. Parce que ne t'accordez pas avec quelqu'un qui ne croit pas. Ne t'accordez pas avec quelqu'un qui n'a pas la perception des choses. Ne t'accordez pas parce qu'au moment où toi, tu es en train de mettre ta foi en action, lui, il passe là, il dit, je ne suis même pas sûr que ce qu'on demande va arriver. C'est fini, tout est annulé. Mais par contre, à propos de ta vie toi-même, à propos de ta vie personnellement, quand tu pries, l'incrédulité de la personne qui est à 3 mètres n'a pas d'effet sur ta prière. Mais non, ça n'a pas d'effet. La personne qui est à côté de toi, la Bible dit, est-ce que l'incrédulité des gens annihileront-ils ce que Dieu est capable de faire dans ta vie? Non, oui. Son incrédulité lui détruit lui-même. Mais son incrédulité n'a pas d'impact sur moi. Parce que quand je prie à propos de ma vie, à propos de mes affaires, à propos de ma situation, ma foi a de l'impact uniquement sur moi. Ma foi va changer mon entourage. Tes doutes ne peuvent pas détruire ma foi. Votre doute ne peut pas influencer ma foi. Mais malheureusement, parfois, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus influencées par les paroles des autres. Parce qu'ils croient plus aux paroles des hommes qu'à la parole de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est pourquoi, quand tu passes tout ton temps à écouter des personnes qui parlent toujours doute, ça ne va pas. Ici, c'est impossible. Ah, on a essayé. Ah, il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que tu n'as pas appris cela? Quand tu écoutes seulement des gens qui parlent de cette manière, d'office, au fur et à mesure que tu les écoutes, ça commence à t'affecter. C'est pourquoi il faut veiller sur ce qui rentre sur tes oreilles. Il faut veiller sur ce qui entre en toi parce que ce qui entre en toi a de l'impact impact, c'est contagieux. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je disais qui est là? Il faut apprendre à faire ça. Quand vous... Il faut apprendre à faire ça. Et parfois un membre de la famille, et parfois quelqu'un de très proche, mais qui vient avec un esprit de destruction, qui vient avec un esprit de doute. Toi, tu crois autre chose, lui, il te dit autre chose. Toi, tu crois autre chose, tu confesses autre chose, lui, il te dit, pour qui tu te prends? Mais nous avons crié avant toi, non? Mais nous sommes sauvés. Ah! Mais nous fréquentons l'église avant. Nous, on était croyants avant toi. Garde ta croyance. S'il vous plaît, ta croyance n'est pas ma croyance. Garde ta croyance. Garde ton ancienneté. Le diable s'en fout de ton ancienneté. Le diable s'en fout. Oh non, ça fait 19 ans que je suis. Attends, le diable s'en fout. Vous savez, parfois ça prend du courage. Regardez-moi, les amis. Parfois ça prend du courage de savoir dire oh, on ne coule pas sur la même longueur d'onde. Désolé, je t'aime, mais on ne coule pas. Je t'aime, mais on ne coule pas. Cela ne veut pas dire que tu dois lui dire méchant, diable, toi. Ne traitez jamais quelqu'un de diable. Il n'est pas le diable. Mais seulement, il n'a pas encore atteint un niveau. Parfois, vous venez avec lui, même église, vous êtes dans la même église. Mais lui, il est distrait. Il n'est pas encore atteint un niveau. Il n'est pas encore atteint. Parfois, lui, il ne trouve pas cela comme une priorité. Ça veut dire qu'il peut venir à l'église, s'asseoir, écouter, mais ça sort de l'autre côté. Pour lui, tout va bien. Il a son emploi, il a sa femme, il a ses enfants, en bonne, tout. Ce n'est pas une priorité. Il dit, je crois que c'est pour les autres qui ont des problèmes, mais moi, tout va bien. Jusqu'au moment où le diable va. Il dit, ah! Or que ce qui les a arrivés peut m'arriver aussi. Il est où? Il est où Dieu? Il est où? Mais attends, il est tous les dimanches à l'église. Qui est là encore? Je disais qui est là. J'aimerais bien vous expliquer rapidement le pourquoi. Le pourquoi. Ah, dites, on continue. Dites à la personne à côté de toi, on continue. Dis-lui, prépare-toi pour 21 jours. Dis-lui, hein. Dis-lui, ne fuis pas, hein, je te vois. Hein. Parce que d'autres, ils commencent déjà à planifier d'aller en vacances alors que les vacances sont déjà finies. Il revient de vacances, il aimerait bien partir pour dire, oh, tu sais, je n'étais pas là. Eh bien, que tu sois là ou pas, nous, on sera là. Quelqu'un peut dire amen. Oh, on connaît ces affaires-là. On connaît ça. Que tu sois là ou pas, avec toi ou sans toi, on sera là. Même avec deux personnes. Dieu n'est pas influencé par le nombre. Il est influencé par la soif. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi tout est-il possible à celui qui croit? C'est ça notre sujet. Je continue. Pourquoi? Le pourquoi? Pourquoi tout est-il possible à celui qui croit? J'aimerais bien, écoutez les amis, j'aimerais bien que je vous donne la liste des versets que nous allons lire. 1 Jean chapitre 3, verset 8, marquez cela, Proverbe chapitre 15, verset 22. On descend en bas, on continue, Proverbe chapitre 9, verset 9. Je continue, Proverbe chapitre 18, verset 4. Alors, je continue pour terminer. Bon, je crois que c'est la fin. Mais si ça vient dans la tête, non. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Ça, c'est le nombre, ça, c'est le verset que nous allons lire rapidement. Alors, j'aimerais bien aller rapidement. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Qui est là? Ok. Est-ce que tu peux nous projeter 1 Jean chapitre 3, verset 8? Il faut aller vite parce que sinon ça risque de me bloquer un peu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de le commencement. Par contre, le Fils de Dieu a paru afin de détruire quoi? Le Fils de Dieu est venu pour détruire quoi? Ah, dites-moi, écoutez-moi. Là où Satan fait quelque chose, Christ vient et il le défait. Satan prend plaisir à tuer, à voler. Mais Jésus, lui, est venu pour débloquer ce que Satan a bloqué. Ne te laisse pas bloquer ou freiner. Refuse d'être bloqué ou freiner. Parce que le Fils de Dieu est venu pour débloquer ce qui a été bloqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Notez bien, quand tu acceptes Christ, et que tu es sauvé, Ne pense pas que tu es arrivé. Sache bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Suivez-moi. Vous savez, quand nous acceptons Jésus, il y a des moments où nous pensons que dès que tu acceptes Jésus, que tout est fini, que tu es arrivé. Non! Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas arrivé au bout. Dites à la personne à côté de toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas arrivé à la fin. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quand tu acceptes Christ et que tu es sauvé, ne pense pas que tu es arrivé. Sache bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Qui sait qu'il y a encore beaucoup à faire? Ah, c'est pourquoi quand tu sais encore, quand tu sais que dès que nous donnons notre vie à Jésus, il y a encore beaucoup de choses à faire, alors arrêtez de voir quelqu'un avec ton regard humain. Arrêtez de juger quelqu'un selon la vision humaine. Parce que la Bible dit quand Dieu commence un travail, il va aller étape par étape jusqu'au moment où il finira. Qui est là? Ça veut dire que même la construction d'une maison, ça prend du temps. Qui est là encore? Ça veut dire que même la vie de quelqu'un, ça prend du temps. Je ne sais pas, toi, le jour que tu es né, dès que tu es né, tu as commencé à poser la question. Du coup, tu as 35 ans avec une barbe. Je crois que toute la maternité parleront de toi. L'hôpital parlera de toi. Même un enfant qui est né, ça prend du temps. Il faut que le parent prenne du temps de commencer à lui donner à manger. Jour après jour, l'enfant commence à progresser. Frères et sœurs, quand nous acceptons Jésus, c'est exactement. Ne pensez pas que tu es arrivé au bout. Ne pensez pas que tu as touché la finalité. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses à faire. Vous savez, quand nous acceptons Jésus, nous ne connaissons pas tout. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, moi, si tu me poses la question, en 82, au début de 82, je crois 81, quand j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant, si tu me poses la question, la connaissance que j'ai aujourd'hui, le niveau de la foi que j'ai aujourd'hui, ce n'était pas le même niveau de la foi. Mais il a fallu que je prenne le temps, que je me discipline d'apprendre. Il faut, vous savez, nous allons de découverte en découverte. On ne fait que découvrir. Frères et sœurs, quand nous acceptons Jésus, on n'est pas arrivé à la totalité, on n'est pas arrivé à la finalité, mais nous allons de découverte en découverte. On ne fait que découvrir. C'est pourquoi la Bible dit que la soif est très importante. Vous savez, les gens parfois, oh non, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Mais quand vous regardez comment il est négligent, il est tellement négligent, même à aller écouter la parole de Dieu. Il est tellement négligent à lire la Bible. Il est tellement négligent, même à suivre des CD. Il est tellement négligent à suivre même des séminaires. Il est tellement négligent qu'à partir de là, tu pourras voir le temps que ça prendra pour lui d'atteindre la maturité. Les gens pensent que la maturité vient comme ça. La maturité ne vient pas comme ça. La maturité vient par la constance. Tant qu'on n'est pas constant, tant qu'on n'est pas déterminé, tant qu'on n'est pas comme un boulet d'oc qui saute sur un os, qui dit je ne lâcherai pas, tant qu'on n'est pas tenace, la maturité ne vient pas. Regardez-moi. Vous savez qu'il y a d'autres choses qu'on peut demander dans la prière. Nous n'arrivons pas à l'obtenir, non pas parce que Dieu ne veut pas nous les donner, non, mais c'est parce que tu n'as pas atteint le niveau de la foi. Arrêtez de dire que non, les sorciers ont bloqué. Arrêtez de dire que non, ma tante, c'est lui qui est sorcier. Arrêtez! Tout ce que tu as besoin, c'est de nourrir ta foi. Parce que quand tu nourris ta foi et que ta foi monte à un niveau, même si ta tante fait des abracadabrans, ta foi est au-dessus. Et tu obtiendras exact. Même si on a mis des liens qui viennent des générations, la foi ne connaît pas de liens. Parce que la foi finit par couper tout seul. Regardez-moi. Quand les gens ne grandissent pas dans la foi, ils ont toujours tendance à chercher pourquoi j'ai prié, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas parce que tu as prié que ça n'a pas marché, que Dieu a dit je ne te le donne pas. Non, mais c'est ta foi. Ta foi a besoin d'être nourrie pour que tu atteignes le niveau que ce que tu demandes exige. C'est pourquoi le Seigneur disait que cela te soit fait selon. Mais quel type de foi que tu as?
Quel type de foi? Parce qu'il dit que cela te soit fait selon ta foi. Mais quel niveau de foi que tu as? Un niveau de foi où tu ouvres seulement la Bible le dimanche? Un niveau de foi où tu attends seulement le mercredi? Un niveau de foi où tu viens seulement prier le dimanche pendant quelques secondes? Tu arrives aussi en retard et tu pries pendant quelques minutes, une minute, deux minutes, et prédication, offrande, tu retournes à la maison. C'est ça le type de niveau de foi auquel tu aimerais bien aller déplacer des montagnes? Ça ne va pas, non? Les montagnes vont se moquer de toi. Les montagnes vont te regarder et te dire, ha! Et puis tu vas commencer à dire, non, certainement ça doit être des magiciens, ça doit être des sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de développer ta foi. Tu n'as pas eu le temps de développer, nourrir ta foi. Tu n'as pas eu le temps de s'asseoir, de te discipliner en disant, je vais arrêter ça, je vais arrêter ceci, je vais arrêter ceci. Ça me dérange. Je parle au téléphone trop. J'aimerais bien donner ce temps d'investir 20 minutes dans la prière et ma foi va grandir en lisant la parole de Dieu. J'aimerais bien arrêter la télé. J'aimerais bien arrêter un peu d'autres invitants. J'aimerais bien ne pas aller. Vous savez, il y a des moments. Tu vas visiter quelqu'un au moment où tu devrais rester chez toi. C'est du désordre, non? Votre motif peut être si pire, mais parfois ce n'est pas le temps. Ce temps-là, tu devrais l'investir parfois à te mettre à genoux. Qui est là? Dites avec moi, désordre. On continue, dites continue, pasteur. Prépare-toi. Alléluia, là. Sachez qu'il y a beaucoup de points ont encore besoin d'être améliorés. Écoutez-moi bien. Il y a des points qui doivent être améliorés. Lisons un peu dans Proverbes chapitre 15, verset 22. Proverbes chapitre 15, verset 22. Allez-y vite, rapide. Proverbes 15, verset 22. Ok, il dit ceci. Le projet échoue faute d'une assemblée qui libère, qui délibère. Mais il résiste quand il y a de nombreux. Et le vrai conseiller, c'est le conseil de Dieu. La Bible dit que des projets échouent. Il y a des choses que nous faisons qui échouent parce que tu n'as pas eu le temps de demander conseil à Dieu. Il y a des choses, il y a même des business, il y a des affaires que tu as fait, mais qui a échoué. Il y a des voyages, il y a des choses que tu as entrepris qui n'ont pas marché parce que tu as refusé les conseils. Tu n'as pas eu le temps de s'asseoir, de te calmer, de prier et de jeûner et d'écouter la voix. C'est parce que ce n'est pas parce que tu as prié et jeûné que Dieu est obligé de te répondre sur place. Il peut ne pas parler sur place. Et il voit ton attitude. Non, moi je voulais dire que je termine ma chambre. Une vision, une prophétie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais ça tente, ça passe trop du temps. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu peux jeûner, prier. Ce n'est pas pour autant que Dieu doit te donner une prophétie. Non, il ne fonctionne pas. Vous savez, ce qui a poussé que le peuple de Dieu, ils ont entendu Moïse est parti à la montagne. Ils ont attendu. Il ne vient pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais pourquoi ça traîne? Mais pourquoi il ne revient pas rapidement? Ah, Aaron, viens. Viens, Aaron. Prends tous nos bijoux. Fais-nous un Dieu. Le type de Dieu là qu'on avait vu en Égypte, fais-le. Aaron, le pauvre, il a pris tous les bijoux. Il a mis au feu, il a mouli et il a fabriqué un dieu. Et tout le monde sont venus. Se sont prosternés. Aaron, tu es formidable, toi. Toi, quand tu parles, tu écoutes. Moïse, lui, il a toujours des points de vue bizarres. Il dit toujours sainteté à l'éternel. Il dit toujours patience, patience. Nous, on est fatigués de patienter. Toi, au moins, tu nous écoutes quand on te dit. Tu nous fais ce que nous demandons. Vous savez, il y aura toujours des Aaron dans la vie. Il y aura toujours des Aaron qui vous diront ce que vous voulez écouter. Mais n'oubliez pas que ce que Aaron te dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ah! Ah! Tu cherches des Aaron qui veulent te prophétiser alors que tu as besoin de quitter ton péché? Tu cherches des Aaron qui veulent te dire des paroles de connaissance alors que tu sais que tu ne veux pas pardonner? Tu cherches des Aaron? Ah, ah non, Moïse, lui, il est toujours dur. Moïse, oh, Moïse, non. Aaron, viens, toi, tu es formidable. Toi, tu nous dis toujours des choses. Aaron, qu'est-ce que tu penses, Saint-Père? Tu sais, moi, avec mon travail, je n'arrive même pas à atteindre le bout du mois. Qu'est-ce que tu penses, Aaron? Est-ce que je dois payer ma dîme? Il dit, oh non. Tu peux donner un peu quelques pièces et puis Dieu te comprend. Ah, Aaron. Tu es formidable. Et toi, tu es vraiment loin de Dieu. L'onction est sur toi. C'est ton Aaron. Ah bon, Aaron t'a dit ce que tu voulais entendre, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait te dire. Tu es passé à côté parce que tu voulais entendre le message que tu voulais toi entendre. Au lieu de dire, je vais payer le prix, quelqu'un peut dire un bon amen. Qui est là? Je vous dis que ce 21 jours, ça va craquer. Tu vas prendre tous les 21 messages. Jésus. Oh, il y aura toujours des Aaron qui viendront vous dire ce qu'ils veulent entendre. Aaron, qu'est-ce que tu penses? Mais dis-moi un peu. Mais dis-moi un peu. Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Il est fiancé avec moi. Mais maintenant, on commence à sortir un peu. De toute façon, il va m'épouser. Aaron, qu'est-ce que tu penses? Moïse, lui, il dira toujours, non, gardez-vous. Gardez-vous, ne vous touchez pas. Gardez-vous, ne vous touchez pas. Ça, c'est Moïse toujours. Il est toujours dire comme un morceau de fer. Aaron, qu'est-ce que tu dis, toi? De toute façon, le gars va m'épouser. Aaron, qu'est-ce que tu dis? Oh, Dieu, mais attends. Vous pouvez toujours vous... Ah, Aaron, toi, tu es formidable. Toi, vraiment, toi, tu es un prophète, toi. J'aime, toi. Je t'aime parce que toi, tu es un prophète. Quand tu prophétises directement, c'est ce que j'aime. Aaron est en train de te séduire. Ne cherche pas à entendre ce que tu veux entendre. Entendez ce que Dieu veut te dire. Parce que Dieu connaît ton futur. Il sait où il veut t'amener. Quelqu'un peut dire un bon amen? Ah. Bon. On peut continuer. Le projet est chaud. Forte l'assemblée qui délibère. Mais il résiste quand il y a de nombreux conseils. Et le vrai conseiller, c'est le Seigneur. Notez bien, plus tu sais qui tu es, plus notre attitude envers nous-mêmes change. Dès que tu sais que tu es ce que tu es, ton attitude envers toi-même change. Ah, plus tu sais qui tu es, plus notre attitude envers nous-mêmes change. Vous savez, quand on ne connaît pas qui on est, même notre foi ne pourra pas marcher. Connaître qui nous sommes change notre attitude. Regarde-moi, David devant Goliath. Goliath se présente, le même Goliath qui avait terrorisé ses grands frères, toute une armée et le roi. Le même Goliath se retrouve devant un jeune garçon de 17 ans, Monsieur David. Il est là, il le regarde, sûr de lui-même. Il connaît d'où il venait. Il a vu des expériences. En pleine forêt, quand il gardait les moutons de son père, un loup est venu, il s'est battu. Un lion est venu, il s'est battu. Il n'a, lui a même pas laissé manger un brebis. Vous savez, quand il était devant un géant Goliath qui faisait terroriser tout le monde, il a regardé ce monsieur, il a dit, mais regardez-moi sa taille, regardez-moi sa taille. Mais qui est-il? Qui est-il? Un circoncis. Qui est-il? Qui est-il pour insulter le peuple, mis à part? Toi, Philistin, est-ce que tu as oublié les gens que tu insultes? Tu ne sais pas d'où ils viennent. Mais est-ce que tu sais où Dieu les a pris? Il les a pris entre les mains d'un pharaon fort. Toi, tu connais Pharaon, toi? C'est seulement ta taille. Est-ce que tu as entendu parler de Pharaon? Dieu les a délivrés. Alors, tu passes tout ton temps à les insulter pour qui tu te prends. Regarde-moi. Il dit, Goliath, regarde-moi. Dans quelques minutes, je te frapperai. Tu seras à terre. Je couperai ta tête. Je les donnerai aux oiseaux du ciel. Ils mangeront ta tête. Dans quelques minutes, je sais qui je suis. J'ai de l'assurance. C'est lui qui m'a délivré devant des lions. Il me délivrera. Vous savez, David avait de l'assurance. Dites assurance. Quand tu connais qui tu es, tu as de l'assurance. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité en Christ, même tes mots changent. Vous savez, les gens parlent selon ce qu'ils sont au fond. Écoutez-moi bien, les gens parlent selon ce qui remplissent leur cœur. Les gens parlent par rapport au contenu qui est dans leur cœur. Ce qui remplit ton cœur, c'est ça qui sortira. Si c'est des doutes qui remplissent ton cœur, c'est les doutes. Si c'est l'incertitude, c'est l'incertitude qui sortira. Si c'est la peur, c'est la peur qui sortira. Qui est là? David regarde ce géant. La Bible dit qu'il terrorisait Goliath. Il mesurait 6 et 3 mètres. Tu te rends compte? Avec les doigts en surplus. Tu te rends compte? Finalement, il était là, je ne sais pas. La longueur de son lit, je ne sais pas. Mais il était là quand il parlait. La Bible dit que quand il parlait, l'Israël tremblait. Tu te rends compte? Le peuple qui ont vu la main de Dieu en Égypte et tremblé devant quelqu'un. Vous savez, parfois il y a des moments où on a vu ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais devant une situation, on tremble. On ne se souvient même pas de ce que Dieu avait fait. Souvent nous tremblons. Les mêmes personnes qui ont vu des miracles, les mêmes personnes qui ont vu des choses que Dieu a agi dans leur vie. Mais devant une autre nouvelle situation qui se présente, tu commences à trembler. Écoutez comment tu parles. Tu bégayes même en parlant. Tu pleures. Tu pleurniches. Tu laisses la dépression. La dépression t'envahit. Mais tu as oublié qu'il y a de cela quelque temps, Dieu t'avait délivré. Tu as oublié qu'il y a de cela quelque temps, Dieu avait payé tes factures. Tu as oublié qu'il y a de cela quelque temps, Dieu t'avait donné un emploi. Tu as oublié qu'il y a de cela quelque temps, Dieu avait trouvé un moyen pour te faire sortir d'une situation. Mais tu as oublié, regardez-moi comment on oublie facilement. On oublie facilement. On oublie. Dites à la personne à côté de toi, faites attention d'oublier tout le temps. Qui est là? Disait qui est là. Vous savez, quand nous comprenons, quand nous découvrons, plus tu sais qui tu es, plus notre attitude change envers nous-mêmes. Dès que tu sais que tu es, et tu te dis, mais au fait, mais je suis un enfant du roi, directement, on se met des habits d'un prince. Tu sais que quand tu sais, quand tu tiens, quand tu découvres que tu es un enfant du roi, tu ne peux pas continuer à t'habiller n'importe comment. Du coup, tu te mets dans la peau d'un enfant du roi. Tu te mets. Dites changement de mentalité. Ah. Quand tu découvres que tu es un enfant de Dieu, même votre langage fait quoi? Change. Dès que tu découvres que tu es né dans le royaume de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, non. Directement, tu t'habilles, tu portes l'attitude d'un enfant du roi. Ton langage change. Les amis, vous savez que le fait de venir à l'église, naître de nouveau, c'est tout autre chose. Mais il faut apprendre d'aller de profondeur en profondeur, afin que tu portes vraiment ton identité. Que tu vis selon ton identité. Dieu te dit, tu n'es pas un esclave. Dans le royaume de Dieu, tous les enfants de Dieu ont le même ADN. Tous sont des princes. Tous sont héritiers. Il faut que tu les comprennes parce que sinon tu vas rester religieux. 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 Mais moi, ça fait 19 ans que je fréquente l'église. Est-ce que tu as entendu que le diable a peur de fréquenter des églises? Mais moi, ça fait 19 ans, je chante à la chorale. Mais est-ce que tu as entendu que le diable craint ceux qui chantent à la chorale? Qui t'a dit ça? Le diable craint ceux qui ont découvert leur identité et qui se sont mis dans la peau de leur identité et qui ont reconnu leur identité. Non seulement ils ont reconnu que c'est des princes, mais ils ont porté des habits de princes. Ils vivent comme des princes avec dignité. Quand la Bible dit que tu es saint, que Dieu est saint, tu fais tout ton meilleur pour marcher dans la sanctification. Quand tu sais que Dieu est saint, tu fais tout de marcher dans la pureté. Là, tu portes ton identité. Même son langage change. Quand quelqu'un connaît son identité, il commence à croire prospérité et les situations commencent à se mettre en place. Vous savez, quand tu crois, quand tu découvres ton identité, ta façon de penser change. Quand tu commences à penser, tu commences à croire prospérité. Et tu vois, Dieu commence à parler. Dieu commence à t'aider. Même ton mental commence à changer. Qui est là? Je disais qui est là. Quand tu découvres ton identité, tu ne peux pas te comporter pareil. Impossible. Regardez un peu. Un cousin de manche longue d'un certain ministre dans votre pays. Regardez un peu. Le fait de savoir que c'est un cousin d'un ministre. Regardez un peu parfois. Essayez seulement de jouer. Tu dis, tu veux que je te fasse disparaître, toi? C'est un cousin et un cousin de manches longues, de loin. Mais parce qu'il est cousin des ministres dans des pays du tiers-monde. Alors, s'il est le cousin du président, mon Dieu, tu joues, il descend, il dit, tu veux que je t'abats comme un chien? Regardez un peu. Le fait d'être seulement, d'appartenir à la famille d'un président, regardez comment la personne porte cet habit-là. Mais alors que nous, enfants de Dieu, comment nous voyons naître des minables? Nous ne regardons comme des vauriens. On est là. On est là. Tous les dimanches, ça devient une certaine religion. On vient, on tape les mains, on loue, et puis on est là. On ne comprend même pas ce que Dieu a mis en nous. Non, 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 non. On vient, c'est la routine. On prie, chantons, on chante, et on retourne. Dieu te regarde et dit, c'est pas vrai. Jusqu'où? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils se fatiguent. Année après année, à un certain moment, dit, c'est toujours la même affaire. C'est toujours la même affaire, là, la même affaire. Même affaire, toujours. Là. En bon québécois, c'est la même affaire. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Tous les dimanches, je suis à l'église, tous les dimanches, je chante, je loue. Mais c'est parce que quelque part, tu dois rester, essaye un peu de te poser la question. Est-ce que tu as découvert ton identité? Est-ce que tu as compris ce que Dieu dit de toi? Mais est-ce que tu veux t'aligner selon ce que Dieu dit et non pas selon ce que les situations te montrent? Et non pas selon ce que tu vis dans ta maison? Les gens se comportent selon ce qu'ils voient. Dieu te dit, ne vis pas selon ce que tu vois dans ta maison. Parce que toi, tu es un esprit. Tu vis dans le surnaturel. Ne vis pas dans le naturel. Ne sois pas impressionné par ce que tu vois dans le naturel. Parce que tu peux changer les choses dans le spirituel. Vous savez, le fait de venir à l'église, si tu ne prends pas la décision de toi-même, dis non, non, j'ai une identité, je suis un prince, je suis une princesse, ma façon de parler doit changer. À la place où les choses ne vont pas bien, moi je vais déclarer ce que Dieu dit. Mais c'est ça qui va changer. Vous savez, c'est ça que le Seigneur m'a dit. J'étais en train de prier ici, c'est ça que le Seigneur m'a dit. Il a dit, Fofi, crois dans ce que je dis, déclarez-les, que ça prend du temps ou pas, déclarez jusqu'au moment où tu le verras dans le naturel. J'ai dit, waouh! Seigneur, je le sais. Il a dit, fais-le. Il y a des moments où nous disons, nous le savons, mais nous entendons toujours ça, mais fais-le. Parce que ce n'est pas parce que tu as déclaré, tu as dit de bonnes choses, tu as confessé la parole de Dieu aujourd'hui, et puis demain tu arrêtes, tu laisses 4 jours, et puis tu reviens. Et puis tu passes encore 17 jours, et puis tu reviens. Ça ne va pas comme ça, frère. La manque de discipline, dites la manque de discipline. Et vous savez que l'indiscipline, c'est quelque chose qui détruit les gens. La constance va faire produire quelque chose. Les gens pensent que non, aujourd'hui il a prié, demain il peut ne pas. Et puis aujourd'hui il a confessé la parole de Dieu, demain il confesse la parole de Dieu. Le lendemain il dit, ah bah écoutez, il y a quelque chose, il n'y a rien qui change. Qui t'a dit qu'il n'y a rien qui change? C'est parce que quand tu les déclares dans le spirituel, les choses changent. Les choses ne changent pas toujours dans le naturel, mais ça commence d'abord dans le spirituel avant que ça commence à changer dans le naturel. Mais les hommes aiment d'abord voir que ça change dans le naturel pour qu'ils commencent à dire j'ai la foi. Non, 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 Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord que ta situation commence à s'améliorer dans le spirituel. Amène cela à l'existence dans le spirituel. Commence à proclamer, commence à déclarer. Oui, physiquement, les choses ne changent pas. Oui, dans le naturel, il n'y a rien qui change. Tu vois la situation s'empirer. Tu dis, je m'en fous de ce que je vois avec mes deux boules ici. Je m'en fous de ce que je vois avec mes deux boules. Je crois dans ce que je vois dans le spirituel. Dites avec moi, la foi voit. Dites encore, la foi voit. Des choses qui ne se voit pas, mais qui existe. Ah, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose que la chose n'existe pas. Non, oui. Et la foi voit toujours des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qui existent. Et c'est la foi qui va l'amener à l'existence. Dites, continue, pasteur. Oh, plus on grandit dans la connaissance de ce qu'on est, plus notre vie change. Plus on grandit dans la connaissance de ce que nous sommes, plus notre vie fait quoi? Change. Proverbe chapitre 9, verset 9. Proverbe 9, 9. Allez-y vite, allez vite, allez vite. Proverbe 9, 9. La Bible dit ceci. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. C'est très fort. Il dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Donne au sage. Les enfants de Dieu, ce sont qui sont appelés des sages. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont justifiés par la foi. Et Dieu les appelle des sages. Et la Bible dit qu'en écoutant la parole, il devient encore plus sage. Non seulement il devient plus sage, mais il commence à résoudre des problèmes. Il commence à recevoir des solutions. C'est ça. Donne au sage et il deviendra plus sage. Si on l'interprète bien, instruit un enfant de Dieu qui est sage. Et il deviendra sage pour résoudre ses problèmes. Et il deviendra sage pour résister aux embuscades du diable. Et il deviendra, vous savez, la parole de Dieu vous aide à résoudre tes problèmes. Parce que la Bible dit, il envoya la parole et la parole les a guéris. Ça veut dire, il les a donné la solution. Et dit, les justes, instruis les justes et il augmentera son savoir. Il dit, instruis les justes. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va augmenter son savoir. Vous savez que le savoir, quand on parle de savoir, ce n'est pas le savoir là qui se trouve dans les amphithéâtres, je ne sais pas quoi, dans les bibliothèques là de la librairie. Non, je ne parle pas de ce savoir là. Ça, n'importe qui peut aller remplir la tête. Vous savez combien de personnes qui ont rempli la tête avec dans les bibliothèques là à côté? Vous savez combien de personnes qui ont rempli la tête? Mais ils dépriment parce qu'ils n'ont pas le vrai savoir. Le vrai savoir, c'est de connaître la révélation de ce que Dieu est. Ah, les amis, vous connaissez l'histoire de ce grand professeur de McGill que j'ai rencontré à Bani, à Saint-Sauveur, qui voulait se suicider. Professeur à McGill, fait 140 000 dollars par année. Il dit, monsieur, j'ai un bagage dans ma tête, mais je suis désolé de te dire, je ne sais pas le pourquoi de la vie. Je me pose la question, le pourquoi de mon existence. Je dis, regardez-moi, il a un bagage. Mais il se pose la question à propos de son existence. Vous savez, quelques secondes après, il a accepté le Seigneur. Il a dit, regardez, c'est ça que je voulais. Regardez-moi, après des années qu'il a étudié, il dit, c'est ça qu'il voulait. La vraie sagesse, c'est la parole. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est en train de te donner des ingrédients. Tout est possible parce que le Saint-Esprit force le couvercle fixé sur le puits de la richesse de notre potentiel. Je disais bien, oui, tout est possible parce que le Saint-Esprit va forger le couvercle fixé sur le puits de ta richesse. Ou bien de ta potentiel, de tes potentiels. Dès que le Saint-Esprit entre dans notre vie, il s'attaque à ce qui nous bloque et nous freine. Et grâce à la puissance de Dieu, il fait sauter le couvercle et se met à forger. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, la Bible, lisons un peu dans le Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. Il dit ceci. Les paroles de la bouche, qu'est-ce qu'il dit? Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Écoutez bien, il dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Écoutez-moi bien, regardez-moi. La Bible dit que les paroles de la bouche d'une personne, ça ressemble à des eaux. Vous savez, si tu ne sais pas nager, tu t'hasardes dans les eaux profondes, tu sais ce qui peut t'arriver, hein? Tu peux te noyer, qui est là. Et la Bible dit que les paroles ressemblent à de l'eau. Des paroles que tu fais sortir de ta bouche peuvent noyer ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église, leur vie est déjà noyée? Ils sont à l'église, mais les paroles qui sortent de leur bouche les a déjà noyées. Parce que la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. La Bible dit que les paroles sont comme des eaux profondes. Et quand tu ne sais pas nager, tu ne peux pas t'hasarder Frères et sœurs, les paroles qui sortent de votre bouche peuvent bloquer votre avenir, peuvent bloquer l'avenir de ton foyer, peuvent bloquer tes potentiels. Les paroles qui sortent de votre bouche sont capables de détruire, peu importe le futur que tu avais. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Attends, on peut venir prier pendant 21 jours, mais si en sortant de la maison ici, ce qui sort de ta bouche n'est pas contrôlé, ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, je te garantis que tu verras les restes vivre la bénédiction, mais toi, tu vas aller d'amertume en amertume. Pourquoi? C'est parce que Dieu te dit, tes paroles sont capables d'influencer ta vie, les circonstances, les paroles. Regarde-moi, David se tient devant Goliath, il lui dit, Goliath n'était pas encore tombé. Et attends, quand David parlait à Goliath, Goliath n'était pas à terre, il était là en bonne forme. Bien costaud, il faisait trembler ses biceps parce qu'il était habitué à les boucher. Il savait que quand il sortait du camp, quand il faisait trembler ses muscles, tous les généraux israéliens tremblaient, y compris Saoul lui-même, le roi. Alors maintenant, ce jour-là, de la même manière, il vient, il fait trembler. Mais il voit un jeune garçon, la Bible dit qu'il a beau figure, parce que la Bible dit que David était beau. Et il se présente, il regarde et dit, hé! Mais attends, il voit David, il vient avec une lance, il dit, hé, mes garçons, mais pour qui tu me prends? Tu me prends pour un oiseau pour venir avec une petite lance-pierre? Mais est-ce que tes frères ne t'ont pas dit? Hé, mais l'armée israélienne ne t'ont pas dit comment je massacre tout sur mon chemin? Le diable te dira, hé, est-ce que les gens-là qui disaient qu'ils croyaient en Dieu ne t'ont pas dit comment ils ont échoué? Le diable viendra te dire par les pensées, hé, mais ces gens-là qui fréquentent l'église, ils ne t'ont pas dit comment ils sont tombés dans la fornication, comment ils sont tombés dans le chômage, comment ils sont tombés dans les avortements, comment? Et toi, qui es-tu pour tenir devant moi? Le diable te dira, il viendra dire toutes sortes de paroles dans tes pensées, il viendra te dire cela, dit, mais tu sais, des personnes qui chantaient à l'église tous les dimanches, tu as vu comment j'ai enlevé tout leur travail, tu penses que c'est toi qui vas garder ton emploi, pour qui tu te prends? Tu fais comment dire que oh, Dieu est avec toi? Mais est-ce que tu n'as pas entendu qu'il y a d'autres personnes qui vont aller dans la même église? Regardez comment leur vie s'est détruite. Si tu ne sais pas lui répondre en lui disant stop, lui c'est lui, moi c'est moi. Amen. Écoutez-moi bien. Il ne faut jamais comparer ta vie par rapport aux échecs de quelqu'un. Les amis, ne faut jamais tirer la conclusion dans ta vie par rapport à l'échec de quelqu'un qui a échoué. Toi, c'est toi, ta foi, que cela te soit fait selon ta foi, ta confiance, ta fermeté, ta fidélité. Votre dépendance sur Dieu va te distinguer. Tu n'es pas monsieur ou madame quelqu'un. Tu n'es pas semblable à lui. Vos empreintes digitales sont totalement différentes. Et ta foi aussi est différente. Alléluia. Les amis, moi je crois que le meilleur m'attend. Je crois que le meilleur m'attend. Ah, les amis, je viens de loin, je viens de quelque part. Hein. Ça fait presque 29 ans que je suis là-dedans. Mais les gens me disaient, ah, Fofi, on verra, un jour tu vas lâcher. Je dis, qui va lâcher? Et ils attendent que je lâche. Ils ont lâché. Moi je dis, Dieu ne me lâchera pas. De toute façon, ce n'est pas moi. Dieu ne me lâchera pas. Vous savez, ce que tu crois va déterminer ce que tu deviendras. C'est pourquoi je ne crois pas à la pauvreté. C'est pourquoi je ne crois pas à la misère. Je ne crois pas. Oh, 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 oh. On peut traverser dans la pauvreté. On peut traverser la pauvreté. On peut traverser la misère. On peut traverser. Mais n'oubliez bien qu'on ne fait que traverser. Alors ne construis pas ta tente dans la misère, mais traverse seulement. Ne construis pas, ne construis pas, ne construis pas. Qui est là? Amen. Dieu te dit, ne construis pas ta tente, ne construis pas ton immeuble. Amen. Tu ne fais que traverser. Ah! Quand tu traverses l'ombre de la mort, voyez-vous? On ne fait que traverser. Les amis, quand on traverse, on ne reste pas là. On ne fait que traverser les autres. Et quand on les traverse, ça nous rend solides. Et quand les autres preuves reviendront, on dit, tu ne sais pas d'où je viens. Je suis un tueur de géants. Je tire de Goliath. Toi, encore un autre Goliath. Prépare-toi, je vais te. Ma Petronille, tu n'as pas un passé, toi? Est-ce que tu n'as pas une histoire avec Dieu? Les amis, qui n'a pas d'histoire ici? Mais tu sais d'où Dieu t'a pris? Est-ce que as-tu vu le temps que tu as prié? Comment Dieu a agi? Maintenant, pourquoi tu l'ignores? Pourquoi tu ne peux pas chanter devant cette histoire, devant ces géants, en disant, attends, je vais chanter mon histoire. J'étais en telle année, Dieu a fait ça. En telle année, il a fait ça. En telle année, il a fait ça. En telle année, il a fait ça. C'est mon histoire, monsieur le géant. Tu lui diras, c'est mon histoire, monsieur le géant. C'est mon histoire. David avait son histoire. Il a dit, oh, un loup est venu. Un tigre est venu. Il voulait prendre le mouton de papa. Un loup est venu. Il voulait déchirer. Je suis sauté sur lui. Je l'ai déchiré. Oh, Goliath, tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne connais pas mon histoire. Attends, je vais te parler, Goliath. Dans quelques secondes, je te fronterai. Tu seras à terre. Je couperai ta tête. Je jetterai ta tête. Et les oiseaux du ciel vont manger tes yeux. Regardez-moi, un homme de foi, quelqu'un qui croit que tout est possible. David croyait que tout est... C'est pourquoi il parlait selon ce qu'il croyait. Regardez-moi, David croyait que tout était possible. Et la première chose pour voir un homme, une femme de foi, je ne parle pas de quelqu'un qui répète comme un perroquet, mais c'est quelqu'un qui dit ce qui est dans son cœur. Je ne parle pas de ce qui répète, qui imite. Ah, il veut imiter. Oh, Dieu, la Bible dit, Dieu, la Bible dit. Comment tu vis dehors? Avec qui tu te couches, toi? Hein? Ah non, la Bible dit, comment tu vis dehors? Comment tu te comportes? Regardez ce qui sort de ta bouche. Comment tu t'agis quand quelqu'un te haït? Comment tu agis? Est-ce que tu rends le mal pour le mal? Ah, il a dit ça, je suis un vaurien. Mais lui, c'est un vrai vaurien. Voyez-vous, tu ressembles avec tout le monde. Tu ressembles à monsieur et madame, tout le monde. Œil pour œil, dent pour dent. Et puis tu viens, tu commences à vomir de quelques versets. La parole de Dieu dit, le diable dit, stop! Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas de caractère. Dites caractère. Hein? Qui comprend quelque chose? Je disais qui comprend quelque chose. David parlait par rapport à ce qu'il a vécu. Il dit, oh, monsieur Goliath, tu ne me connais pas. Oh ben, tu me mesures par rapport à ma taille. Oh man, bon, tu regardes ma taille. Vous savez, ce n'est pas ma forme extérieure, mais c'est ma forme intérieure. Regardez-moi, un homme de foi, c'est quelqu'un qui est fort intérieurement. Une femme de foi, c'est quelqu'un, on ne les compare pas par rapport à sa taille. Ce n'est pas par rapport à ses biceps. Ce n'est pas par rapport à ses sourcils, sa beauté. Ce n'est pas par rapport à ses yeux bleus. Ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à son niveau de diplôme. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à sa démarche, non. Mais c'est par rapport à ce qu'il est intérieurement. Et Dieu dit que je ne regarde pas l'apparence extérieure, mais Dieu regarde l'apparence intérieure. Un homme, une femme de foi, c'est quelqu'un qui est fort dans son fort intérieur. Sa force est basée sur ce que Dieu dit. Sa force est basée sur les promesses de Dieu. Sa force, attends, tu peux la regarder, tu dis, ah? Mais elle ne fait pas le poids, il ne fait pas le poids. Mais Dieu dit, il fait le poids. Elle fait le poids. Le diable te dira, tu ne fais pas le poids. Tu te diras, c'est toi qui ne fais pas le poids. Mon Seigneur t'a vaincu. C'est toi qui ne fais pas le poids. Mais moi, je fais le poids. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Donnez une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Le Saint-Esprit est le sceau qui nous permet de comprendre la sagesse et l'intelligence. Tension de notre cœur. Voyez, vous savez, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient. La première chose, il vient. Quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit prend maintenant le travail de nous révéler ce que Dieu avait mis en nous, mais que le diable avait enfermé. Hello? Suivez-moi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit, son travail, c'est quoi? Il vient déboucher, parce qu'avant de connaître le Seigneur Jésus, le diable avait tout bouché. Il a mis une couvercle, il a tout fermé, barricadé. Mais maintenant, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient, il enlève ces bouchons-là. Le Saint-Esprit maintenant commence à te montrer des choses que Dieu avait mises en toi avant que tu naisses. Parce que quand nous naissons avec tout ce que Dieu a planifié pour ton futur, pour ton séjour sur la terre. Pose la main sur ton ventre. Dites, j'ai tout mon avenir avec moi dans mon. Ne répétez pas pour répéter, répétez par la foi. Dites, j'ai tout mon avenir avec moi. Dites avec moi, j'ai toutes les capacités en moi. Dis-le. Dites avec moi, j'ai tout ce qu'il faut pour ma réussite. Mais c'est exactement, les amis. C'est ça. Change un peu ta façon de voir. Hey! Oh non, mon avenir est devant moi. Ton avenir est devant toi. Mais ton avenir, Dieu l'a mis en toi. Ton avenir, Dieu l'a mis en. Ton avenir, Dieu l'a mis en. Ton avenir, Dieu a mis en qui? En toi. C'est comme ce micro ici. Tout est là pour sa réussite. Le micro ici que vous voyez, le fabricant a tout mis à l'intérieur pour que ça fonctionne bien. Dieu a mis tout à l'intérieur de toi. Tout ce qu'il te faut, tu as besoin d'une relation jour après jour. Tu as besoin d'une relation, une intimité jour après jour. Tu as besoin de points de contact jour après jour. Tu as besoin de dire, Seigneur, je ne connais pas encore ce que tu as mis en moi. Saint-Esprit, c'est toi qui connais ce que Dieu a mis en moi. Saint-Esprit, révèle-moi. C'est ça. Il faut demander au Saint-Esprit, révèle-moi ce que Dieu a mis en moi. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi. Lisons un peu pour terminer. Lisons un peu le dernier verset. Lisons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Oh! Dites avec moi, c'est formidable, dis ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce qu'ils lisons tous ensemble? Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit de qui? Qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par. Réalisez ça. Allez-y. Fermons nos Bibles, on clôture par là. Et dit, or nous, quand on dit nous, c'est qui? C'est toi. Or nous, c'est qui? Nous, c'est toi. Or moi, c'est qui? C'est moi. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous savez c'est quoi ça? Suivez-moi. Quand on dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, vous savez l'esprit du monde c'est quoi? C'est le système du monde. L'esprit du monde, ça veut dire il y a un système. Le système du diable. Regardez-moi. Le diable te regardera. Vous savez, l'esprit du monde, c'est quoi? Regardez comment l'esprit du monde parle. Écoutez-moi bien. Regardez comment l'esprit du monde parle de cette manière. Toi, tu es né dans quelle famille? Oh non, je suis né de telle famille. Tu vis dans quel quartier? Non, je vis de tel quartier. Tu as fait quel diplôme? Non, je fais de... Ah non, on regarde. Ah, on ne voit pas le nom de ton papa. Il n'était pas un érudit. Ton papa n'était pas... Non, il n'était pas connu comme aristocratie. Toi, mets-toi là-bas. Tu n'es pas qualifié pour aller là. Il y a des places seulement qui sont qualifiées pour des personnes qui ont le nom. Ça, c'est l'esprit du monde. Dites l'esprit du monde. La Bible dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Le monde a tellement des opinions. Le monde a tellement de préjugés. Il vient te regarder, toi. Dis-moi, ton niveau, c'est quoi? Quel diplôme tu as? Eh bien, non, moi, je suis arrivé seulement au cégep, ainsi de suite. Non. Les gens qui montent à ce niveau-là ne peuvent pas arriver seulement là. Alors toi, tu es disqualifié. À un certain moment, dis-lui, ce n'est pas toi qui peux me disqualifier parce que ce n'est pas mon créateur qui l'a dit. Regardez-moi, il y a des moments où vous écoutez des informations que les gens vous disent. Nous recevons des rapports, ça c'est l'esprit du monde. Le monde viendra, l'esprit du monde te dira, ah, mais dans votre famille, personne n'est arrivé à ce niveau-là. Non, ce type de maison, ce type de voiture n'est pas pour votre famille. Vous avez été fait pour des... Et puis le monde t'a déjà chronométré, le monde t'a qualifié. C'est-à-dire le monde t'a dit, pour toi, on a mis la couverture. Ah, mais toi, tu dois dire, Saint-Esprit, écoute un peu ce qu'ils ont dit. Viens forger et faites sortir ce que tu as mis en moi. Regardez-moi, n'accepte jamais le rapport qu'un professeur peut te dire et puis tirer la conclusion en te disant, tu es un nul. Dis-lui, je ne suis pas un nul. Si c'est toi qui es nul, mais moi, Christ n'est pas nul à moi. avec ton certificat ou sans ton certificat, Dieu va m'amener là où il veut m'amener. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils vont tenter de vous montrer que non, comme il est professeur, comme il est directeur, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, c'est lui qui décide pour toi. C'est lui qui décide s'il doit échouer, si tu dois échouer ou tu dois avancer. Dis-lui, tu ne peux pas décider pour moi. Parce que tout peut arriver. Regarde-moi, vous savez, tout est possible à celui qui croit. C'est ceux qui croient. Comme tu peux te décider de commencer à pleurer par rapport au rapport que le professeur a dit. Comme tu peux te décider de pleurer par rapport à ce qu'un directeur a dit. Comme tu peux te décider de pleurer par rapport à ce qu'un médecin a dit. Comme tu peux te décider de pleurer, le monde va vous donner des opinions. Dites opinions. Mais les opinions du monde, les opinions de quelqu'un, n'est pas forcément les opinions de Dieu pour toi. Quelle est l'opinion de Dieu pour ta vie? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que ta façon de penser soit transformée. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est le doute. L'esprit du monde, c'est quoi? Ah, tu sais, ici au Canada, les choses ne marchent pas comme il faut. L'esprit du monde, c'est quoi? Le monde a un langage. Le monde a une façon de penser. Le monde a sa façon de parler. Le monde a un langage. Le monde a une attitude. Et le Seigneur dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Vous n'avez pas l'esprit du monde. Ah, pauvre moi. Le monde parle de cette manière. Ah, pauvre moi. Moi, je suis un misérable. Nous avons accompagné les autres. C'est les autres qui réussissent. Et moi, ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde parle comme ça. Ah, nous sommes accompagnés des gens. Et c'est eux qui réussissent. Moi, tout ce que je fais, mes enfants n'ont rien qui va. Ma santé, rien ne va. Et ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde parle comme ça. Mais la Bible dit, vous n'avez pas réussi l'esprit du monde depuis que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous ne pouvez plus parler comme ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions, dites afin que nous connaissions. Ah, vous entendez le Saint-Esprit? Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui va nous faire connaître. Dites, le Saint-Esprit est une personne, dis-moi. Il va me faire connaître. Il dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Est-ce qu'il a dit qu'il nous donnera? Mais qu'il nous a déjà? Répétez avec moi. Est-ce qu'il a dit, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous donnera? Mais il a déjà fait quoi? Regardez-moi. Pour Dieu, il t'a déjà mis, il a donné tout ce qu'il te faut. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, ne te plains plus. Parce que tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler des choses que Dieu a mis en toi, que tu ne connais pas encore, que tu ne pourras pas connaître avec tes pensées, avec ton corps. Non, c'est seulement ton esprit qui peut les savoir par l'aide du Saint-Esprit. Alors bâtis une relation avec le Saint-Esprit parce qu'il est celui qui connaît des choses que Dieu a mis en toi. Que tu n'as pas encore vu, que ton professeur ne connaît pas, que ton papa et ta maman ne connaissent pas, que tes amis de l'école ne connaissent pas. Il te traite selon ce qu'il voit. Il te regarde, mais ne voit pas. Mais quand Dieu te regarde, il voit ce qu'il a mis en toi. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu.